L'esprit saint, emplissez les cœurs de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre esprit, Seigneur, il se fera accroître sur une nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions au Dieu qui avait instruit les cœurs de vos fidèles et les murs du Saint-Esprit. Donnez-nous par son esprit à comprendre et aimer ce qui vient de jouir sans cesse de ces lignes constellations. Par Jésus-Christ notre Seigneur, ainsi soit-il. Donc aujourd'hui, un petit survol assez prétentieux qui se veut être une perspective holistique depuis la création du monde jusqu'à l'Unacum. Donc il existe un seul être nécessaire, éternel, subsistant, cause des causes et incausé, c'est Dieu. Ce Dieu, comme il est parfait, ne peut être que unique, puisque s'il était imparfait, il serait en bagarre avec l'autre, et donc il ne serait pas tout-puissant, il ne serait donc pas Dieu. Un seul Dieu, donc, implique une seule révélation. Une seule révélation implique une seule religion, car Dieu ne peut pas se contredire, étant donné qu'il est la vérité même, et qu'il ne peut ni nous tromper, ni nous tromper, et évidemment ne pas être contradictoire en lui-même. Une seule religion, donc une seule Église. Et donc notre devoir et notre espérance, c'est de trouver la bonne, l'unique. Depuis notre Père Adam, qui dissertait avec Dieu à la tombée du soir, une révélation continue, contenant l'annonce du Sauveur, a toujours existé. À travers tous les prophètes, Dieu annonce et prêche sa loi. Moïse, il est grave sur les tables que Moïse va recueillir. L'organisation du culte divin, le magistère, les psaumes et toutes les préfigurations, eh bien, c'est l'Ancien Testament qui préfigure le Messie Sauveur. À travers ces prophètes, ces législateurs, ces liturges, ces rois, nous avons toutes les préfigurations de l'unique sauveur, l'unique médiateur, l'unique prêtre et l'unique victime. À travers les préfigurations que sont Melchisédek qui offrait le pain et le vin, à travers Noé qui même dans l'arche faisait les sacrifices dans l'arche, et puis vinrent les sacrifices d'animaux, la construction du temple, la reconstruction, etc., du temple de Jérusalem, jusqu'à l'incarnation du Verbe. Ce dernier, le Verbe divin, réalise dans sa personne à la fois l'offreur et l'offert, puisqu'il est le prêtre et la victime, à la fois le nourrisseur, puisque c'est lui qui nous donne à manger son propre corps, mais aussi à la fois la nourriture. Donc Jésus, qui étymologiquement est Dieu sauve, eh bien Dieu sauve, se donne, se communique. Et il nous sauve en se donnant, en se communiquant. Et d'ailleurs, le dessein divin depuis l'aube des temps, dans le cœur même de la délibération divine de créer les hommes, eh bien c'était comme émanation de sa bonté supérieure et infinie. Le bien, comme dit saint Thomas d'Aquin, est diffusible de soi. Eh bien donc Dieu ne pouvait pas être autre chose que vouloir se donner, et qu'est-ce qu'il pouvait donner de mieux que son identité à lui. Et donc du haut de la croix, Dieu nous donne d'abord celle qu'il a donnée aux hommes, la Sainte Vierge Marie, est maintenant notre mère, et il consomme son don, son propre don, son don de son corps, de son sang, de sa divinité, il le consomme ultimement par le coup de lance de l'engin, car c'est de son sang ouvert que s'écoulent le sang et l'eau, qui sont la source et l'origine de tous les sacrements. Et c'est de ce Jésus ouvert et de son cœur sanglant et d'où coule l'eau et le sang, que naît l'Église, corps mystique du Christ. Et l'Église, à ce moment-là, est simplement trois personnes avec son Christ mort. C'est la Sainte Vierge, Sainte Marie-Madeleine et Saint Jean. Et l'Église est donc bien le Christ, et le Christ est l'Église. Tous les pères et les pontifes de la Sainte Église le crient depuis toujours, depuis saint Paul, par exemple, « Pour moi, vivre, c'est le Christ ». Une autre citation de saint Paul, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi ». Beaucoup plus tard, de sainte Jeanne d'Arc, « Mets à vie que du Christ et de l'Église, c'est tout un », qui souligne évidemment l'unité d'identité du Christ et de l'Église. Et du grand Bossuet, l'Église, c'est Jésus-Christ répondu et communiqué. Le vénéré Pie XII actera cette vérité de foi dans l'encyclique Mediator Dei, qui expose très clairement ce rôle unique du Christ médiateur, du fait notamment de son hypostase, il est vrai Dieu et il est vrai homme. En se donnant, c'est sa vie même qu'il communique, nous devenons à notre tour le Christ. Donc il y a un échange absolument sidérant d'ailleurs quand on imagine l'immensité de Dieu et la misérabilité de nous autres hommes. Donc nous sommes faits un avec lui, unacum. C'est de cette vie même du Christ qui fait et qui est l'Église. C'est de cette vie même que vit toute l'Église. L'Église triomphante au ciel, la militante sur terre, la souffrante au purgatoire, tout cela est unacum, le Christ. Le Christ est l'Église, l'Église est le Christ. C'est cette vie même qui est célébrée lors du Saint-Sacrifice, unacum. Nous sommes un avec le sacrifice qui est offert pour nous, par nous, unacum. Le Saint-Sacrifice lui-même est impéré unacum par celui... par celui qui opère, par celui qui opère satisfaction vicaire, donc le Christ lui-même nous ordonne, vous ferez ceci en mémoire de moi, mais il est aussi impéré par le vicaire du Christ. Donc à la satisfaction vicaire que le Christ a remplie comme vicaire pour nous, eh bien son vicaire, le pape, impère cette obligation de célébrer le sacrifice. C'est sur son ordre, sur l'ordre du pape, que l'unique Saint-Sacrifice peut et doit être célébré. Unacum. C'est pourquoi il est absolument impossible de le célébrer. Unacum, quelqu'un qui n'est ni membre de l'Église parce qu'il n'en a pas la foi, et qui ne célèbre même pas ce même sacrifice. Cela serait inepte, contre nature, contre essentiel, puisque l'essentiel du sacrifice du Christ, c'est justement sa vie, et sa vie, c'est l'adhésion de foi, et que celui qui n'adhère pas à cette unique foi ne peut pas impérer de célébrer un sacrifice que d'ailleurs il ne célèbre pas. Et donc enfin, c'est sur le plan psychologique, proprement schizophrénique, totalement déchiré, entre une réalité qui est celle de la vraie foi et du vrai sacrifice, et qui pourrait être impéré, ce qui est évidemment l'inverse, par quelqu'un qui n'a pas cette unique foi et qui n'est pas le vicaire du Christ. Par conséquent, pour être unacum, nous ne pouvons pas être unacum. Pour être unacum le Christ, nous ne pouvons pas être unacum les pontifes conciliaires.
Très bien, merci François. Voilà, voilà. Donc, quid de la fraternité Saint-Pie-X par rapport à ce respect qu'ils ont de la tradition, en tout cas, on va dire en apparence, et puis qui sont en unacum alors qu'ils critiquent ce qu'ils reconnaissent comme pape, alors qu'ils sont en unacum donc avec cet anti-pape quoi, qui est Bergoglio. Comment est-ce qu'on peut interpréter, je veux dire, cette position de la fraternité Saint-Pie-X, j'entends.
Cette position est une position qui n'est fondamentalement pas possible sur le plan de la cohérence mentale, puisque donc quelqu'un qui n'est pas membre de l'Église ne peut pas en être le chef, et on ne peut pas célébrer les mystères de la foi avec quelqu'un qui n'a pas cette foi. Le problème remonte, à mon sens, à une question d'ecclésiologie gravissime, et même de christologie, parce que comme le Christ et l'Église, c'est tout un, eh bien, toutes les mauvaises conceptions en matière d'ecclésiologie révèlent et reflètent des mauvaises conceptions en matière de christologie. C'est la même chose que ceux qui actuellement, sur le net, prétendent que le Christ... Et que c'est un mystère actuel que nous vivons, mystère d'iniquité, puisque donc le Christ est péché, et de la même façon que l'Église devient pécheresse. C'est impossible que l'Église devienne pécheresse, puisque l'Église est le Christ, et c'est impossible que le Christ soit péché. Le Christ a accepté de porter sur lui l'ensemble des péchés des hommes. Il a été regardé et détesté par Dieu Père comme justement le péché fait homme, mais dans la pratique et concrètement, in actu, le Christ dans son sacrifice a fait exactement tout l'inverse du péché puisqu'il a racheté l'ensemble des péchés. Donc jamais, à aucun moment, le Christ n'a péché, même s'il a porté sur lui et pris sur lui nos péchés pour les racheter. Et donc le parallèle n'est absolument pas possible qu'il existe aujourd'hui une église qui soit pécheresse de la même façon que le Christ a été péché, puisque le Christ n'a jamais été péché. Et c'est impossible que le Christ n'a jamais fait le moindre péché, et donc la véritable église ne peut pas et n'a jamais fait aucun péché et n'a jamais prêché ni le péché ni l'erreur. Et donc, de la même façon que le Christ n'ayant pas prêché l'erreur ni fait le moindre péché, eh bien, ne peut pas être assimilé à cette simili-église qui est en fait une travestissement, qui est un éclipseur. L'église conciliaire est un éclipseur de l'église unique, l'église du Christ, l'église catholique. Elle est bien éclipsée, selon le mot de Notre-Dame à la Salette. L'église aura une crise affreuse et sera éclipsée.
D'accord. Tu as parlé tout à l'heure des papes conciliaires. À partir de quel pape considères-tu, enfin, est-à considérer plutôt pour tout catholique, à partir de quel pape, voilà, on doit considérer qu'il est conciliaire.
L'église conciliaire, c'est celle qui a été fondée par celui qui a ouvert le concile, et celui qui a ouvert le concile, et celui, bien sûr, qui l'a promulgué. Les deux. Mais le problème, c'est que le premier a été hérétique et suspect d'hérésie très, 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 très longtemps avant d'être élu en apparence pape, puisque dès les années 20, Roncalli a été levé de son poste de professeur de séminaire parce qu'il était suspect de modernisme et qu'un grand nombre de ses propos scandalisaient dans ses cours. Deuxièmement, il a été observé tout au long de sa carrière parce que toute sa doctrine était mauvaise, erronée et sentant le modernisme. Et puis, une quinzaine d'articles de 20 pages qui ont été écrits sur lui, qui montrent que toute sa vie, il n'a été que ami avec des modernistes, fiefés, condamnés, et que son aspirateur de sa théologie personnelle, bien avant d'être soi-disant élu pape, a été un moderniste condamné. Sans compter que lui-même a pondu une de ses premières encycliques, Pacem in Terris, qui contient l'affirmation que chacun est libre de suivre la religion. Ce qui évidemment en germe exactement la définition hérétique que Lumen Gentium pondra dans le concile qu'il a ouvert. Lumen Gentium qui dit que nul ne doit être empêché de suivre la religion qu'il veut, etc. Donc tout ça est des hérésies qui sont connues, hein, parce que la liberté religieuse a été condamnée dans le syllabus comme un délire, alors que Lumen Gentium la décrète fondée dans la révélation. Donc c'est directement antagoniste. On est là encore en pleine schizophrénie, quoi. Ce qui a été condamné avant ne peut pas être déclaré fondé dans la révélation ensuite, puisqu'il n'y a qu'une seule révélation, elle est continue, elle va toujours dans le même sens, elle est homogène depuis la création du monde, et c'est pas aujourd'hui qu'une petite camarilla de modernistes qui ont vu le summum de leurs hérésies être condamné fin 19e, c'est pas à cause de cette camarilla que l'Église va subitement changer de sens, d'essence et de subsistance. L'Église du Christ, elle est unique, elle persiste, toujours égale à elle-même, toujours dans le même sens, et donc c'est avec elle qu'on doit être unacum, et certainement pas avec les imposteurs de Vatican II.
Oui, certainement, oui. Dieu est stable, il ne peut pas se tromper, il ne peut pas nous tromper, donc son Église non plus. Je le comprends bien. Alors aujourd'hui, c'est un petit peu difficile, parce qu'aujourd'hui, nous avons, pas beaucoup de prêtres. Alors, nous suivons la démarche pour être authentiquement catholique, pas beaucoup de prêtres, je veux dire, à la portée, puisqu'il faut donc exclure la Fraternité Saint-Pédis, il faut exclure tout ce qui est conciliaire, il faut exclure aussi tout ce qui est se rallie aussi, et donc à cette secte conciliaire. Maintenant, aujourd'hui, c'est un peu difficile pour trouver un prêtre pour pouvoir espérer vivre selon les sacrements. Alors, pour les catholiques qui, guidés par l'Esprit Saint, s'aperçoivent justement de tout ce marasme, est-ce qu'il y a une solution pour les catholiques pour vivre en tant que catholique aujourd'hui?
Ben oui, c'est une situation extrêmement périlleuse pour la foi, puisque évidemment les sacrements sont quasi indispensables à la survie de la foi, et surtout à la survie de notre vie de vertu. Mais c'est évidemment une situation unique dans toute l'histoire de l'Église, puisque même lorsqu'il y avait des hérésies et des schismes, même lorsqu'il y avait des antipapes, eh bien ces mêmes antipapes étaient des gens fidèles à la foi unique. Ces antipapes, ils célébraient une messe valide, des sacrements valides, et ils partageaient l'unique foi catholique du Christ. Ils étaient antipapes uniquement du fait que leur élection était due à une fraction du collège qui n'était pas forcément unanime, puisqu'il n'y avait qu'une fraction. Et c'est pourquoi l'histoire les retient comme antipapes. Mais antipapes ne veut pas dire contre la foi. Ils ne sont pas antifois. Les antipapes n'étaient pas hérétiques. Tandis qu'aujourd'hui, les faux pontifes que nous avons depuis 58 sont des gens qui non seulement n'ont pas été élus validement et canoniquement, mais surtout n'étaient pas éligibles du fait qu'ils n'avaient pas la foi de l'Église. Or, c'est bien le problème des conditions nécessaires et préalables à une élection pontificale, c'est que le candidat à l'éligibilité doit, pour être véritablement candidat, être d'une part un homme. Donc en imaginant qu'une femme se cache sous une soutane, cette femme qui serait apparemment élue, même avec l'unanimité des cardinaux et une acceptation de tout le monde sans contestation extérieure, eh bien ne serait pas plus pape que vous et moi, puisque elle n'aurait pas ontologiquement elle remplirait pas les conditions ontologiques d'être profond, d'essence, hein, qui doit être d'être un homme. Mais il y a une autre condition qui est essentielle, l'essence, hein, l'être même de la personne doit être quelqu'un de catholique. Or, quelqu'un qui est suspect, même suspect d'hérésie, pas forcément hérétique, et encore moins hérétique déclaré, mais même simplement suspect d'hérésie, ou suspect de sympathie ou d'adhésion à un quelconque mouvement acatholique comme peut l'être la maçonnerie, ne pourrait pas, et n'est pas, et ne sera jamais éligible. Il faut pour qu'une matière soit formable, il faut qu'elle soit formable. Par exemple, un sculpteur peut sculpter de la pierre, du marbre, du plâtre, du bois, et même de la glace. Mais pour prendre la comparaison de la glace, il ne peut pas sculpter de l'eau, parce que l'eau n'est pas une matière formable, on ne peut pas lui donner une forme. Elle se forme d'elle-même dans le récipient où elle est. Donc si on jette de l'eau, on la jette, mais on ne la sculpte pas. Elle ne gardera jamais la forme qu'on aura voulu lui donner. Et bien donc, de la même façon, pour qu'un candidat soit éligible à la papauté et reçoive la forme du pontificat qui est l'être avec le Christ, que le Christ donne avec son charisme d'infaillibilité au moment de l'acceptation de l'élection, eh bien cette forme qui est le pontificat, eh bien ne peut pas revêtir quelqu'un dont la matière n'est pas formable. Et si quelqu'un n'est pas catholique, c'est-à-dire s'il a adhéré ou a été en sympathie ou etc. avec des doctrines ou des mouvements acatholiques, ne peut pas être éligible. Donc en pratique, il est très clair que le dénommé Roncalli, qui est avec certitude initié depuis les années 34 en Turquie, qui a participé aux loges Rose-Croix en France, dont le chapeau de cardinal a été donné par Vincent Auriol, qui était lui-même son copain franc-maçon, et dont, après sa mort, a été loué et remercié et regretté par ses frères francs-maçons de toutes les loges du monde, puisqu'il y a eu au moins 5 ou 6 courriers qui ont parlé, qui ont regretté notre frère Johannes, qui est parti à l'Orient éternel. on s'exprime pas comme cela de quelqu'un qui ne l'est pas. Donc il faisait partie du sérail maçonnique et de toute façon il était très amplement suspect d'hérésie, donc hérétique, bien avant les années 30, avant même son initiation maçonnique. Donc ça fait deux raisons essentielles qui montrent que Roncalli ne pouvait pas être éligible et donc n'a pas été élu. Et s'applique donc la fameuse bulle de Paul IV, Cum ex apostolatus, que tout le monde connaît plus ou moins, mais que personne n'a vraiment compris, parce que cette bulle n'est pas pondue comme ça, comme une invention subite, mais c'est quelque chose qui ne fait que rappeler des données de foi divine et aussi de droit naturel. Le droit naturel, c'est qu'on ne peut pas être chef de ce dont on n'est pas membre, c'est de la logique basique. Et deuxièmement, de droit divin, parce qu'on ne peut pas être chef de l'Église et être celui que Jésus a confirmé dans la foi si on est déjà quelqu'un qui a abandonné la foi ou qui n'a jamais eu. C'est impossible. Et d'ailleurs, c'est un blasphème contre le Christ, puisque le Christ, lorsqu'il fait la promesse à Pierre, dit « Et tibi dabo ». Tibi, c'est « à toi », donc à Pierre. « Dabo », je donnerai. « Je donnerai », c'est le Christ qui parle. C'est pas, le Christ ne dit pas « Et ecclesia dabo », et l'Église te donnera le charisme d'infaillibilité. Non, c'est « Et tibi dabo », c'est moi qui te donnerai les clés du royaume des cieux. Donc les clés, elles ont été promises à Saint-Pierre et tibi dabo. Et lorsque Saint-Pierre, après la résurrection, puisque là, il ne s'agissait que d'une promesse au futur, eh bien, lorsque Pierre va renier, il n'était pas pape, c'est encore un argument fallacieux, oui. Quand Pierre renie trois fois son maître, mmh. il n'était pas pape. Il était en promesse de le devenir, mais il ne l'était pas. Mmh. Et tibi dabo, dabo, c'est le futur, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et c'est après, sur la plage, lorsque Saint-Pierre... est sollicité dans une triple affirmation de foi, Pierre m'aimes-tu, hein, quand Jésus lui demande, et bien c'est là que Pierre s'exclame avec tout son enthousiasme, c'est le cas de le dire, hein, Dieu avec soi, enthousiasme, hein, mais oui Seigneur, vous savez bien que je vous aime, il le répète trois fois, c'est après cette triple affirmation de foi que là, ipso facto, j'allais dire, la prière de Jésus se fait effective. Jésus a prié pour que ta foi ne défaille pas, pour que sa foi ne défaille pas, et plus jamais la foi de Pierre ne défaillera, puisque personnellement, Pierre, en tant que Pierre, personne unique qui est Pierre, oui. Il ne défaillera pas et il mourra crucifié par humilité la tête en bas, pour attester de la vérité, et qu'aucun des successeurs de Saint-Pierre, dans sa fonction, n'a jamais défailli dans l'enseignement de la foi ou de la morale. Jamais, jamais. Même les pires des comportements immondes de certains papes de la Renaissance ne entachera d'erreur l'enseignement de ces mêmes papes. Alexandre VI, par exemple, dont le comportement est tout sauf modèle dans ce domaine.
Borgia pour les intimes.
Voilà. Eh bien, sur le plan de l'enseignement de la foi et du gouvernement de l'Église, foi et morale n'a jamais enseigné d'erreur, alors qu'il pratiquait bien sûr des choses immorales, mais il n'a jamais enseigné d'erreur. Aucun des papes. Tout le monde sait très bien que toutes les calomnies qui touchent Saint-Libert, Honorius et éventuellement Alexandre VI sont des faux en écriture, sont des faux historiques, et que jamais aucun pape, et d'ailleurs ces deux fois divines et révélées, ceux qui disent le contraire sont des hérétiques, puisque le pape, le Concile Vatican I a bien d'abord étudié, certifié la question, et que le texte lui-même de Vatican et de la Constitution Pastor Aeternus définit deux fois divine devant être tenue infailliblement par tous, et comme le fait que jamais le siège de Pierre n'enseignait la moindre plus petite erreur d'aucune façon. Voilà. Donc on peut avoir des papes qui font des erreurs dans le domaine de leur comportement privé, on peut avoir des papes qui font des erreurs dans des domaines qui ne sont pas de leur ressort de pape, c'est-à-dire dans la diplomatie, on peut avoir des erreurs de ce type-là, politique par exemple, parce que ce n'est pas un domaine infaillible, mais on n'a jamais aucun pape qui a enseigné l'erreur, surtout à G continu, comme l'ont fait Roncalli, Montini, Ratzinger, et j'en passe, enfin les derniers qu'on connaît, qui n'est même pas prêtre. Ça n'est jamais arrivé. C'est impossible que ça arrive, puisque j'ai prié pour que ta foi ne défaille pas, et tibi dabo, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et donc c'est renforcé par d'autres paroles du Christ, qui dit bien, tout ce que vous lirez sera lié, tout ce que vous délirez sera délié. Et donc, et encore une autre chose, et voici que je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc on ne peut pas considérer non plus que l'infaillibilité des papes soit limitée à quelques 10 minutes par siècle, lorsque Pie XII définit l'Assomption en 1950, ou lorsque Pie IX proclame l'Immaculation au 19e siècle, et que tout le reste serait fantaisiste et facultatif. Parce qu'à ce moment-là, les fidèles deviendraient eux-mêmes l'Église enseignante, et c'est eux qui décréteraient ce qu'ils doivent croire, ce qu'ils vont croire ou ce qu'ils vont pas croire dans l'enseignement de leur pape. Or, lorsqu'on est catholique, et bien comme le dit Boniface VIII, il est nécessaire au salut pour tout être humain d'être soumis au pontife romain. Et je vois pas à quel moment on pourrait savoir si le pape parle comme pape infaillible ou s'il parle comme rigolo qu'on peut ne pas écouter parce qu'il ne serait infaillible prétendument qu'une fois par siècle. C'est complètement absurde. Hein, Jésus dit bien, voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc c'est tous les jours que le Christ donne son assistance à l'Église, d'une façon infaillible dans ses papes, et d'une façon infaillible lorsque les papes sont en unanimité morale avec et lorsque les évêques sont en unanimité morale avec le pape, ou avec les papes du temps passé, s'il n'y a plus de pape parce qu'il y a une vacance. Il y a eu 260 vacances dans l'histoire de l'Église, parce qu'il y a eu 260 papes qui sont morts, de Saint-Pierre à Pie XII, il y a 260 papes qui sont morts. Il y a quelquefois des vacances qui ont duré 2, 3 ans, voire 40 ans, enfin 39 ans et demi, pendant le grand schisme occident, on n'a pas tellement bien su qui était à l'époque, on ne savait pas qui était le pape véritable ou pas. Donc un pape vivant n'est pas compris dans la promesse de pérennité du siège de Pierre. L'Église perdure, même s'il y a une vacance qui peut être longue, elle est de 60 ans aujourd'hui, mais qui n'empêche pas que structurellement l'Église existe et qu'elle soit toujours assistée par le Christ, parce qu'elle a les promesses de la vie éternelle, et tant qu'il restera deux fidèles et un évêque sur terre, il y aura une Église, hein, et voilà.
Oui, je comprends. Il y a aussi le fait que des personnes, en fait, se déclarent publiquement que, si à ce moment-là, si Roncalli était anti-pape, enfin, donc l'Église s'est trompée. C'est ce que ces personnes-là disent, donc, au niveau de l'élection. Est-ce qu'on peut juste faire donc une nuance, une différence de ce qu'est l'Église au moment où il y a l'élection de Roncalli, c'est ce que l'Église, le magistère ordinaire, extraordinaire, pour pas qu'on s'en mêle les pinceaux, en fait, dans tout ça. Par rapport à l'élection de Roncalli, est-ce qu'on peut dire un mot sur les hommes qui ont trompé, enfin qui ont été trompés et trompés, enfin je veux dire sur l'élection de Roncalli, sur l'élection de Jean XXIII, parce que il a quand même une fois qu'il a été élu, il a quand même fait le sermon antimoderniste, il a quand même lu son sermon antimoderniste, il a quand même dit qu'il ne avant même d'être élu, alors qu'il était papa choisi même. Puisque le grand favori était le cardinal Siri à l'époque, pas favori de Pie XII en tout cas pour être un digne successeur, et d'ailleurs Siri a été élu deux fois de suite, mais avant que ce soit Roncalli qui passe. Mais est-ce qu'on peut dire qu'on a été abusé, trompé, comment est-ce qu'on peut se situer par rapport dans ce système d'élection qui était un peu vraiment quand même assez houleux, quoi, et aussi où il y a eu des menaces de mort, enfin c'était pas très paisible, on peut dire.
Ce qu'il faut savoir, c'est que dans toute l'histoire de la Sainte Église, il y a eu des candidats qui étaient indignes dans leur vie privée, mais qui n'avaient pas abandonné la foi catholique et qui ont été élus. Ça a donné un certain nombre de papes de la Renaissance qui étaient médiocres dans leur personne, mais qui n'ont jamais commis d'erreur dans leur enseignement en tant que pape, et qui, quelquefois, ont pu être scandaleusement pécheurs publics, comme Alexandre VI Borgia. Quoique, d'ailleurs, à mon avis, on en ait beaucoup rajouté. Enfin, comme on ne prête qu'aux riches, évidemment, comme il était surabondamment pécheur, on en a rajouté. Mais ça n'empêche pas que l'Église reste l'Église, même s'il y a des désignations qui sont quelquefois houleuses, voire même simoniaques, etc. Ça n'empêche pas que des gens puissent être validement élus. Mais ça empêche aussi quelquefois que des gens en apparence validement élus soient finalement pas vraiment papes. Par exemple, lors du grand schisme d'Occident, il y a eu jusqu'à 4 candidats différents, dont à certains moments 2 en même temps. Et parmi ces 2 en même temps, il y en a un qui était soutenu par un saint, un grand saint, qui est Saint Vincent Ferrier, qui était à Vannes, qu'on appelait le, le prêcheur de l'Apocalypse, enfin, parce qu'il faisait même des miracles. Et il y avait un autre pape qui était, entre guillemets, pape, qui était soutenu par une autre sainte, une grande sainte aussi, qui était Sainte Catherine de Sienne. Et donc ça veut bien dire qu'on peut être trompé dans son adhésion à un pape, on peut être trompé dans la désignation d'un pape s'il y a un concile imparfait ou partiel, comme c'était le cas. Mais ça ne veut pas dire que l'Église soit morte, la preuve, on est toujours là, alors que le grand schisme, c'était il y a 7 siècles, donc ça ne pose pas de problème. De plus, il faut distinguer, comment dire, les différents modes d'élection. Aujourd'hui, beaucoup sont fixés sur l'idée que l'élection ne peut être faite que par des cardinaux, et donc il faut des cardinaux. C'est pas vrai. Dans l'histoire de l'Église, jusqu'au quasiment Xe siècle, l'élection était faite par acclamation du clergé de Rome, et même à un moment du peuple de Rome. Il y a même des évêques qui ont été élus et choisis par acclamation, puisque saint Ambroise a été choisi par la voix d'un petit jeune, d'un enfant qui a crié « Ambroise évêque ». Et du coup, après, tout le monde a renchéri, oui, Ambroise évêque, et hop, tout le peuple de Milan a crié, Ambroise évêque, et Milan a reçu le sacerdoce plénier, l'épiscopat, des mains de je sais plus qui, j'ai relu ça hier soir d'ailleurs, mais je me rappelle plus maintenant. Bref, le mode d'élection, élection ça veut dire choix, ça veut pas dire forcément qu'il y a un scrutin à bulletin secret, comme on connaît dans la République, avec des bulletins qu'on raye ou qu'on raye pas, etc., qu'on met dans une urne. Et electio, en latin, ça veut dire choix. Et le choix, il peut être fait par n'importe qui et n'importe comment. Lorsque la colombe vient sur le Christ, lorsqu'il reçoit son baptême, bah, c'est une élection divine qui prouve évidemment qui il est. Hein, et donc il n'y a pas eu un choix avec des bulletins secrets pour élire le Christ comme Christ. Il y a une manifestation qui manifeste le choix divin et qui montre que c'est bien lui le Christ. De la même façon qu'on peut avoir donc des élections d'évêques ou de papes par acclamation du peuple ou du clergé de Rome ou les deux. Puis ensuite ça a été réduit par saint Anicet, je crois, en 1034 ou 1039, ça a été réduit au collège des cardinaux, parce que c'était compliqué de réunir tout le clergé de Rome, qui était devenu trop nombreux, en plus, aussi, c'est ça le problème, pour des raisons pratiques. Voilà. Ensuite, pour des raisons d'universalité, l'idée étant que les cardinaux sont les supports, hein, cardinal, ça veut dire le gond, hein, c'est le pivot sur lequel se porte la foi et se portent les portes de l'Église qui ouvrent ou pas à la foi les gens qui ouvrent sa porte pour être membre de l'Église. Donc le cardinal, c'est un gond, et donc on a réservé à partir de 1059. On a indiqué que l'élection serait réservée aux cardinaux, parce que les cardinaux doivent être choisis parmi des hommes d'élite, qui sont comme les gonds, les pivots, les supports de la foi. Et qu'en plus, ils manifestent par là leur universalité, puisque en principe, il y a des cardinaux pour toutes les provinces du monde. Donc c'est effectivement ainsi une manifestation de l'universalité de l'Église, quoi. Mais on peut imaginer très bien que l'Église soit réduite à une poignée, puisque le Christ lui-même nous l'annonce dans l'Évangile, lorsque le Fils de l'homme reviendra sur la terre, retrouvera-t-il la foi ? Oui. Or, cette formulation qui est interro-négative tente à dire qu'en effet, il retrouvera la foi, mais pas terrible, quoi. Pas sensationnel quant au nombre et à l'apparence magnifique et nombreuse, ça sera plutôt une foi revenue aux catacombes. Et de la même façon que l'Église commence avec trois personnes au pied de la croix et découlant du cœur ouvert du Christ dont découle le sang et l'eau, de la même façon, il n'est pas dit que l'Église se termine avec une Église réduite à des dimensions domestiques, comme d'ailleurs beaucoup de prophéties privées reconnues par l'Église le disent, que l'Église soit réduite à une dimension domestique, où on n'aura plus de sacrements, on n'aura plus que le chapelet comme support de prière, parce qu'on n'aura plus les sacrements et plus la messe. Et donc c'est pas impensable que l'Église continue à perdurer, mais dans des conditions petites, domestiques, cachées, persécutées, et je crois qu'on est dans ces temps-là. Et c'est pour ça qu'il faut prier pour avoir à nouveau un saint pape, pour que l'Église se redéploie et qu'elle continue son travail, son job de sauver les âmes et de ramener au ciel, en passant par la porte dont les cardinaux sont les gonds, n'est-ce pas ? Eh bien, un maximum. Mais la porte, c'est le Christ lui-même. Je suis ego sum ostium, je suis la porte. Et donc, on ne peut pas entrer dans l'Église avec des gens qui ne sont pas le Christ et qui ne sont pas un avec le Christ. Encore une fois, l'unique vie divine à laquelle nous sommes appelés, c'est le Christ lui-même, c'est la vie divine que nous partageons. Et donc ceux qui ne partagent pas la vie divine ne peuvent pas être la porte pour introduire la vie divine. Et on ne peut pas être una cum ces gens-là, ce n'est pas possible.
Alors, d'être uni à la vie divine, c'est, ça sous-entend quoi de participer, de prendre des sacrements qui sont déjà valides, de s'éveiller sur notre état d'âme? Est-ce que seulement les hommes de bonne volonté, parce que chez les modernistes, chez les protestants, on peut trouver aussi des hommes de bonne volonté, je veux dire, quelque chose d'horizontal, quoi, de solidarité, etc., etc. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que, donc, comment est-ce qu'on peut s'unir au bon Dieu? Par où, quelle est vraiment la porte étroite? Où est le grand sentier de perdition? Parce que, avec tous ces propos, on pourrait conclure que, il y a beaucoup d'hérétiques. La nouvelle messe qui est apparue en 69, pardon, toutes les hosties sont invalides. Enfin, je veux dire, depuis ce temps-là, comment être sauvé aujourd'hui, où se trouve, comment participer à cette union divine?
C'est bien tout le problème, hein. C'est notre unique but et notre unique travail aujourd'hui, c'est de travailler à la sainteté, à la vertu. Donc évidemment, pour le commun des gens, malheureusement, ils peuvent être trompés. D'ailleurs, historiquement, dans l'histoire du monde, les gens ont été quelquefois massivement trompés. Lorsque, à cause de Luther, l'ensemble de l'Europe du Nord est devenu luthérien, eh bien l'ensemble des pauvres gens, des braves fidèles enseignés, qui ne sont pas l'Église enseignante, ont été trompés par leur Église enseignante, parce que leurs curés et leurs évêques allemands, par exemple, sont devenus tous massivement luthériens, sauf une toute petite minorité. Pareil dans l'anglicanisme, majoritairement, les gens sont devenus massivement anglicans. Pas toujours en le voulant, mais parce que l'Église enseignante, elle suit son clergé, et quand le clergé massivement se fait tromper, est trompé et devient à son tour trompeur, eh bien les malheureux fidèles, malheureusement, sauf certains qui sont martyrisés et qui résistent, ils suivent bêtement parce qu'ils sont trompés par la faute de leurs autorités. Et nous, actuellement, c'est exactement ça. Il y avait 2500 évêques à Vatican II, seulement 250, un dixième, qui faisait partie du Cetus Internationalis Patris, qui était la partie un peu conservatrice. Mais à la fin, malheureusement, tous ont signé les actes de Vatican II, qui contiennent quatre hérésies majeures. Donc, malheureusement, on peut considérer que sans rentrer 2500 évêques catholiques au Concile Vatican II, et que les actes signés, eh bien, c'est bien 2500 évêques qui ont signé les actes. On peut dire moins d'eux, puisque Mgr Lefebvre et Mgr Castremeyer se sont repris et ont manifesté, ont protesté contre ces hérésies publiquement, mais on peut dire que massivement l'Église entière a été éclipsée à ce moment-là par une contre-Église dont l'acte fondateur est la promulgation des actes de Vatican II. Mais le problème, c'est que dans la pratique, eh bien, Dieu laisse des traces de sa présence, d'une part dans sa doctrine, ça c'est pas compliqué, puisque en plus au XXIe siècle on a tous les moyens documentaires possibles par internet ou autre de savoir ce qu'est exactement le contenu de la foi catholique. On a aussi l'exemple de tous les saints et les martyrs, c'est d'ailleurs ce qui a fait d'autres saints, hein, puisque saint Ignace par exemple, il s'est converti grâce à la lecture des vies de saints, il avait ça sous la main quand un boulet de canon français lui a fracturé la jambe, ce qui l'a obligé à garder la chambre, et il s'est converti en lisant les vies de saints. Donc on a les exemples documentaires sur le contenu de la foi, sur la pratique de la vie de la foi par la vie des saints et des martyrs, ça c'est essentiel. Mais après, il ne faut pas non plus se tromper, on ne peut pas être simplement des consommateurs de sacrements, parce que des sacrements valides, il y en a partout dans le monde. L'ensemble des schismatiques orientaux, qui sont maintenant hérétiques puisqu'ils n'adhèrent pas au dogme de l'infaillibilité pontificale qui a été défini depuis, ils ont des sacrements valides. Ils ont massivement, la plupart, une foi solide, trinitaire, ils ont une eucharistie valide, ils ont une confirmation valide, ils ont les sept sacrements valides. Hein, c'est absolument indéniable. Il n'empêche qu'il est totalement illégitime et que, comme le disaient tous les papes depuis 1000 ans, il est clair que ces gars-là sont un peu comme des receleurs des trésors du Christ. Ce sont des voleurs, parce qu'ils recèlent, ils gardent et ils cachent les trésors des sacrements valides du Christ, mais ils n'adhèrent pas à la vie même du Christ, qui est l'unité de son Église, Parce que l'Église est son corps mystique. Et il faut être uni à son corps mystique. Et donc les schismatiques orientaux ne sont pas unis au corps mystique. Mais et donc c'est pour ça qu'un schismatique ne peut pas avoir le salut s'il est enduré dans son salut, s'il est pertinace dans son schisme. Il n'y a que l'ignorance invincible qui peut sauver un orthodoxe. Bon, comme heureusement, hélas, moi je pense personnellement que beaucoup de gens sont incapables de faire la différence entre la vraie et la fausse Église, parce qu'ils sont ignorants, parce qu'ils n'ont pas étudié, parce que personne ne leur éclaire. Et donc, se contenter d'avoir des sacrements valides, c'est une bonne chose. Bon, en état de danger de mort, c'est clair, il faut le faire. Mais c'est une bonne chose, mais ce n'est pas suffisant, parce qu'il faut être uni à l'Église du Christ, qui est une. Et donc, le fait d'avoir des sacrements valides n'est pas suffisant. Parce que si on est adhérent à des faux pontifs, et qu'on est adhérent de cœur et tout ça, j'ose pas dire qu'on est adhérent de raison à des pontifs qui sont des faux, puisque du coup, c'est pas raisonnable du tout. On a perdu la raison si on prétend adhérer à la foi catholique, en même temps adhérer au vicaire de l'Antéchrist, que sont les pontifs conciliaires. Il y a une incompatibilité rationnelle, une schizophrénie, un déchirement entre le fait d'adhérer d'un côté au vicaire du Christ et d'adhérer de l'autre côté au vicaire de l'Antéchrist. La même personne ne peut pas être les deux. L'hypostase, c'est uniquement dans le Christ. Il n'y a que le Christ qui a uni deux natures en une seule personne, la nature divine et la nature humaine. L'hypostase du vicaire du Christ avec le vicaire de l'Antéchrist, qui a été inventé récemment par Mgr Williamson et qui est globalement, dans le sens profond, qui est globalement celui auquel croient les simplicistes, c'est complètement délirant, c'est inconcevable. On ne peut pas, par exemple, prétendre être nationaliste et catholique et français toujours, et en même temps adhérent et communiste, puisque c'est antinomique, la doctrine est diamétralement opposée, quoi. Donc on ne peut pas être croyant et incroyant, on ne peut pas être antéchrist et Christ, c'est pas possible. Donc lunacum, c'est le problème qui cristallise, non pas à cause du terme, du mot ou de la polémique qu'il y a à ce sujet-là, mais c'est beaucoup plus grave que ça, c'est ontologique. L'ontologie de la foi, la vie de foi, c'est le Christ, c'est la vie divine. Partager la vie divine, c'est partager une unité divine, c'est partager la vie de la Sainte Trinité. Or, il n'y a pas une Sainte Trinité qui serait la véritable, et puis une fausse à laquelle croient les modernistes, il n'y en a qu'une, et ce n'est pas celle des modernistes. Donc on ne peut pas adhérer au chef des modernistes, et le chef des modernistes ne peut pas en même temps être le chef des catholiques. C'est impossible, c'est antinomique. Alors après, qu'on le décrète avec des raisons, telle thèse, telle antithèse, telle synthèse, ça on s'en fiche, c'est complètement secondaire, et c'est d'ailleurs pas du ressort des fidèles enseignés que de décréter quel est le modus operandi, comme quoi le pape serait pape ou ne serait pas pape. Mais on a les paroles de Notre-Dame qui nous suffisent, l'Église sera éclipsée. Bon, bah c'est clair, donc les gens qui éclipsent, les éclipseurs, ne peuvent pas être les éclipsés. Il y a bien les éclipseurs et les éclipsés. Et les gens qui veulent garder la tradition catholique, ils sont bien éclipsés, ils sont obligés de se cacher, d'acheter des granges, de dire la messe comme au temps des catacombes et comme au temps de la Grande Révolution française. Ils sont obligés de se cacher et de faire des stations-service de secours, quoi, un petit peu. Et voilà. Mais c'est comme du temps de l'arianisme, hein, où tout le clergé était devenu arien. Je crois que c'est saint Athanase qui s'écriait... eux, ils ont les églises, les édifices, hein, les bâtiments, mais nous, on a la foi. Bon, qu'est-ce qui est le plus important? C'est évidemment d'avoir gardé la foi. Bon, et un jour, on récupérera les églises. C'est secondaire. Même si, évidemment, cet aspect de visibilité est très important. Parce que, justement, quand il n'y a plus de visibilité, les petits se perdent. Les âmes des petits, des pauvres, des gens qui n'ont pas fait d'études, qui ne sont pas capables de voir et de discerner et de comprendre où est la vraie Église. C'est pour ça qu'il est essentiel, très rapidement, d'avoir une résurrection de l'Église, parce qu'une éclipse, d'abord, c'est quelque chose qui n'est pas définitif, donc les portes de l'Église, les portes de l'enfer ne prévaudront pas, puisqu'une éclipse, c'est temporaire. Et deuxièmement, parce que pour le salut des hommes, qui est quand même le but ultime de la donation de Dieu. Hein. Dieu a voulu se communiquer sa propre vie. Donc il ne va quand même pas vouloir que perdure une éclipse qui conduit justement à la donation du plus grand nombre. Et malheureusement, on sait que le plus grand nombre, hélas, se damne, c'est connu. Jésus l'a prêché, hein, elle est étroite et resserrée la voie. Et bien la voie du salut, c'est primo l'adhésion à un seul Dieu unique en trois personnes, avec toute la foi catholique qu'on doit étudier. C'est le premier des devoirs, et c'est malheureusement un devoir que ne fait quasiment personne, même pas les gens qui se prétendent tradis. Ils ne connaissent rien de leur foi, ils ont appris 10 questions du catéchisme, mais ils croient que c'est suffisant. Et ce n'est pas suffisant. Quand Dieu donne l'étape de la loi à Moïse, il dit « Tu aimeras Seigneur ton Dieu de toutes tes forces, de toute ton intelligence, de tout ton esprit, etc., de tout ton cœur. » Ça veut dire que toutes les facultés humaines, et en premier, la première des facultés qui nous rend semblables à Dieu, qui est l'intelligence, eh bien notre intelligence doit s'appliquer à étudier la foi pour pouvoir mieux y adhérer. On ne peut pas adhérer à ce qu'on ne connaît pas. Or, la foi, c'est un acte d'adhésion de l'intelligence à une vérité révélée. Donc on ne peut pas adhérer à ce qu'on ne connaît pas, et pour connaître, il faut étudier. Et d'où le devoir impératif, qui est un devoir grave sous peine de péché grave, du premier commandement, d'étudier sa foi. Donc la première des choses, c'est évidemment la reconnaissance et la profession du Dieu unique en trois personnes, l'étude de la foi, la pratique de la prière, qui est une des premières participations à la vie divine du Christ, c'est justement d'être unacum le Christ dans la prière, nous devenons un en lui, et c'est d'ailleurs cette unacum qui perdurera depuis notre vie ici-bas par la vie de prière et de sacrement qui nous rend participants à la vie divine, jusqu'au ciel où on continuera identiquement, semper idem, à participer à la vie divine du Christ, avec non plus les sacrements du Christ, mais le Christ même qui est le créateur, l'auteur et la vie même et l'existence même des sacrements, puisque les sacrements, c'est le Christ. L'Eucharistie, c'est le Christ. La confirmation, c'est le Christ. Le baptême, c'est le Christ. Donc voilà, et dans le Christ, bien sûr, on a toute la Sainte Trinité. Il ne s'agit pas de faire de l'unitarisme à l'envers. Voilà. Et donc, pour ce qui est de la renaissance de l'Église, c'est entre les mains de Dieu. D'une part, bien sûr, les évêques complètement convaincus de l'actuelle vacance de l'Église, de l'actuelle éclipse de l'Église, pourraient très bien se réunir en concile imparfait et élire un pape. Mais il est probable que le bon Dieu a voulu cette division, finalement, enfin a permis cette division des évêques traditionnalistes actuellement, précisément pour qu'ils se réservent à sa gloire tout le mérite de la résurrection de l'Église en acte, parce que Dieu intervient toujours quand tout est perdu. Et Dieu veut toujours que ce soit des petits nombres et des petites personnes et des petites minorités, voire même des petites personnes très humbles, qui soient les dispensateurs de ces mystères et de sa gloire. Par exemple, sainte Bernadette disait « Si la Sainte Vierge avait trouvé une plus ignorante et plus bête que moi, elle l'aurait choisie. » Donc voilà, Dieu se choisit des outils tout petits et misérables pour confondre ce qui est fort. C'est la théologie de saint Paul. Hein. C'est quand je suis faible que je suis fort, parce qu'évidemment, c'est à ce moment-là que Dieu prend toute la place et que, évidemment, le Christ vit en moi. Mais il n'empêche qu'effectivement, on ne doit pas être des consommateurs de sacrements, se contenter d'aller choper la communion comme ci, comme ça, en disant « le reste ne m'intéresse pas ». Et c'est très compliqué. Or, malheureusement, beaucoup de tradis en sont rendus là. Ils vont ici ou là, n'importe où ils ont une apparence de validité parce qu'ils ont un peu de latin, ils sont contents. C'est beaucoup pas suffisant. Le latin, c'est quelque chose de merveilleux. Le grégorien, c'est une splendeur que je chante moi-même. Mais c'est nécessaire, mais c'est pas suffisant. Il faut avoir la foi totale pour aller en paradis. Et puis bon, cette foi, elle n'est pas pour que nous soyons tout contents d'avoir la foi, elle est pour la gloire de Dieu, puisqu'on honore et on glorifie Dieu en faisant sa volonté. Et sa volonté, c'est que nous ayons foi en lui, et que si on l'aime, on va faire ses commandements. Donc primo, croire à la vraie foi, la professer, et secondo, pratiquer les vertus, c'est-à-dire observer ses commandements. Donc effectivement, les choses se tiennent. Tout ça, c'est unacum. C'est unacum la foi et la morale, c'est unacum la prière et la vie de la prière et la vie des sacrements, c'est unacum le Christ et unacum l'Église. On ne peut pas disséquer les deux. Et on ne peut pas non plus confondre une apparence d'Église avec une vraie Église. Et on ne peut pas confondre des faux sacrements avec des vrais. Voilà.
Oui, on entend là...
Est non, non.
D'accord, on entend là, en fait, pour citer quelques exemples, l'Institut Christ-Roi Souverain Prêtre ou les ralliés comme la Saint-Pierre ou voilà, où il y a c'est plus un amour de la liturgie ah ben que de l'enseignement.
Ce sont des esthètes, ouais. Champions du iota, de la virgule, près de la génuflexion ou de la demi-flexion nécessaire dans les rites, ouais. Mais ils ont oublié qu'ils ont des ordres invalides et qu'ils ne sont pas prêtres. Donc ils savaient magnifiquement, j'y ai assisté plusieurs fois pour me rendre compte de comment ils faisaient, c'est magnifique en apparence, c'est magnifique esthétiquement, le grégorien est très bien chanté, le rituel est respecté, sauf que ce qui prime sur le rituel, c'est quand même la validité de l'ordre de celui qui célèbre, et si celui qui célèbre n'est pas prêtre, il a beau se conformer à toutes les virgules près du rituel, sa messe ne vaut rien. Mais c'est navrant, hein, j'en suis le premier navré, en plus sur le plan affectif et amical, j'ai des amis dans toutes les tendances, aussi bien moderno que tradi, et je leur garde mon amitié, mais je leur veux leur bien. Un ami, c'est celui dont on aime l'âme, et on veut que son âme soit dans la vraie foi, pour être avec le vrai Dieu, mais malheureusement, je veux bien de leur âme, mais eux, quelquefois, ils veulent pas le bien de leur propre âme, parce qu'ils veulent pas étudier la foi, hein, donc c'est... À chacun, Dieu nous laisse libre. Hein. Dieu est amour. Et Dieu veut de l'amour. Il veut notre amour en réponse au sien. Mais le problème, c'est que l'amour, c'est une question de liberté. Et si on n'avait pas la liberté qui nous permet de choisir entre le bien et le mal, et donc qui nous rend potentiellement acteurs du mal, et malheureusement, tous, nous sommes pécheurs et acteurs du mal, s'il n'y a pas de liberté, il n'y a pas d'amour. Si je force quelqu'un à m'aimer, c'est du viol, c'est plus de l'amour. Il y a une différence entre le viol et l'amour. Et donc, voilà, abyssal, c'est le contraire, hein, l'un de l'autre. Et donc, Dieu nous a créés libres, et donc, à nous, effectivement, de vouloir étudier la vraie foi pour y adhérer. Et donc, on ne peut pas faire l'impasse de la connaissance des choses de la foi. Hein.
Bien sûr, on peut être aussi violé par nos petits conforts, malgré soi, par nos petits conforts. Ou même volontairement. Je veux dire, par exemple, quand on a des amis dans un lieu de messe, et puis on s'y sent bien parce qu'il y a un bel orgue, il y a des beaux chants, parce qu'il y a une belle liturgie, mais que la messe n'est pas valide. Ou alors parce qu'elle est hérétique, parce qu'elle est en unacum avec un hérétique. Je veux dire, c'est quand même assez vertigineux. C'est quand même assez radical. L'amour pose une radicalité. Quand même après en action, parce que comme dit notre Seigneur, en acte et en vérité, après c'est vrai que c'est délicat, mais comme notre Seigneur a dit, la porte est étroite et la porte est petite et le sentier étroit, hein, c'est vrai que c'est pas facile, hein.
C'est une question de conscience actuellement, mais cette conscience, on a le devoir de l'éclairer, et puis faut pas perdre de vue qu'en cas de danger de mort, on peut recourir à toutes les personnes dont on sait que le sacerdoce est valide, même s'ils sont schismatiques. Si je suis en train de mourir et que je suis dans un pays orthodoxe, j'hésiterai pas une seconde à demander extrême onction à un pape orthodoxe, alors qu'aujourd'hui, vivant, je n'irai jamais à aucune, et je ne participerai activement à aucun culte schismatique. Ça c'est clair. Là j'ai un vieil ami qui était à 1000 km qui était en train de mourir. Je me suis arrangé au téléphone pour trouver un prêtre valide à moins de 100 km, qui est passé lui donner extrême onction. C'est indispensable.
Oui, il y a des cas de nécessité, bien sûr. Bon, je crois qu'on a fait le tour de la question pour aujourd'hui. Merci François. Peut-être à une prochaine, certainement.
Très bien.
Et à très bientôt, que Dieu vous bénisse et vous garde.